Et nous lirons deux textes aujourd'hui. Un texte dans Corinthiens 12, 12 à 31, puis ensuite dans Jean 15, 1 à 17. En effet, comme le corps est un, tout en ayant une multitude de parties, et comme toutes les parties du corps, en dépit de leur multitude, ne sont qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Car c'est dans un seul esprit que nous sommes tous, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit hommes libres. Nous avons reçu le baptême pour appartenir à un seul corps, et nous avons été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas une seule partie, mais une multitude. Si le pied disait « Parce que je ne suis pas une main, je ne fais pas partie du corps », il n'en ferait pas moins partie du corps. Et si l'oreille disait « Parce que je ne suis pas un œil, je ne fais pas partie du corps », elle n'en ferait pas moins partie du corps. Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe ? Et s'il était tout ouïe, où serait l'odorat ? En fait, Dieu a placé chacune des parties dans le corps comme il l'a voulu. Si tous étaient une seule partie, où serait le corps ? Maintenant, donc, il y a une multitude de parties et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire au pied « Je n'ai pas besoin de vous ». Bien au contraire, les parties du corps qui paraissent les plus faibles sont nécessaires. Et celles que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, ce sont nos parties les moins décentes qui sont traitées avec le plus de décence, tandis que celles qui sont décentes n'en ont pas besoin. En fait, Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, pour qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais pour que toutes les parties du corps s'inquiètent de la même façon les unes des autres. Et si une partie du corps souffre, toutes les autres souffrent avec elle. Si une partie du corps est glorifiée, toutes les autres se réjouissent avec elle. Vous êtes le corps du Christ, vous en faites partie, chacun pour sa part. Or, Dieu a placé dans l'Église, premièrement, les apôtres, deuxièmement, des prophètes, troisièmement, des maîtres. Ensuite, il y a des miracles, ensuite des dons de guérison, des aptitudes à secourir, à gouverner, et diverses langues. Tous sont-ils apôtres ? Tous sont-ils prophètes ? Tous sont-ils maîtres ? Tous font-ils des miracles ? Tous ont-ils des dons de guérison ? Tous parlent-ils en langue ? Tous interprètent-ils ? Passionnez-vous pour les meilleurs dons de la grâce. Et je vais vous montrer la voie qui surpasse tout.
Le second texte se trouve dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 15, les versets 1 à 17. Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Il enlève tout sarment qui, uni à moi, ne porte pas de fruits, mais il taille, il purifie chaque sarment qui porte du fruit, afin qu'il en porte encore plus. Vous, vous êtes déjà purs grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez unis à moi, comme je suis uni à vous. Un sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans être uni à la vigne. De même, vous non plus ne pouvez pas porter de fruits si vous ne demeurez pas unis à moi. Moi, je suis la vigne, vous êtes les sarments. La personne qui demeure unie à moi et à qui je suis unie porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. La personne qui ne demeure pas unie à moi est jetée dehors comme un sarment et elle sèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez unis à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela sera fait pour vous. Voici comment la gloire de mon Père se manifeste. Quand vous portez beaucoup de fruits et que vous vous montrez ainsi mes disciples, tout comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, tout comme j'ai obéi aux commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce qu'un serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné une mission afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, le Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Ce que je vous commande, donc, c'est de vous aimer les uns les autres. Il y a une question qui a longtemps préoccupé les théologiens, parce que c'est leur métier d'être préoccupés, celle de savoir qui était le véritable fondateur du christianisme, Jésus ou l'apôtre Paul. Pendant un temps, Paul semblait avoir une sorte d'avantage, mettez ça entre guillemets, je l'ai fait moi-même, une sorte d'avantage sur Jésus, en tout cas dans l'esprit de certains théologiens, du moins, dans la mesure où Paul, au moins, lui, avait écrit quelque chose, un certain nombre de lettres dans lesquelles il rapportait tout ce qu'il avait dit et fait pour exporter la bonne nouvelle du salut en Christ. Jésus, de son côté, dans cette vision des choses, en tout cas, partait avec un handicap. Il laissait bien un enseignement, c'est vrai, mais il avait choisi une toute autre méthode en ne formant qu'un tout petit nombre de disciples et en leur laissant surtout l'immense responsabilité de répandre son enseignement principalement par la prédication et le témoignage. Et en dehors de quelques mots tracés du doigt sur le sol, dans le sable ou la poussière, on ne sait pas très bien, Jésus n'avait strictement rien écrit. Énorme handicap. Ces paroles ne devaient être mises par écrit que bien plus tard par les auteurs des évangiles, sans doute par souci de transmission, et c'est tant mieux pour nous. Alors évidemment, c'était bien longtemps avant Gutenberg. Mais depuis les premiers codes de loi du Proche-Orient ancien, le passage à l'écrit était déjà, à l'époque, une manière de conserver, pérenniser ce qui est important. On connaissait cette manière de faire pour fixer les choses. Il n'y a pas grand monde qui avait accès à l'écrit, mais tout de même, il était là. Pourtant, tout compte fait, l'affirmation d'un avantage de Paul sur Jésus renseignait surtout sur notre manière de raisonner dans notre monde à nous, post-Gutenberg, où les écrits restent et les paroles s'envolent. En réalité, la tradition orale, on le sait maintenant, a permis la transmission des fondamentaux pendant des siècles et avec une parfaite fiabilité. La séquence que propose tout le Nouveau Testament n'est donc pas obsolète par rapport à nos habitudes modernes. Elle montre au contraire une succession intéressante dans ces deux textes. D'abord, l'annonce de l'évangile de personne à personne, en situation et à l'aide de paroles et de gestes qui sauvent. C'est ça qui doit venir en premier. Ensuite seulement, le passage à l'écrit où Gutenberg, merci à lui, n'est qu'un support technique pour prolonger l'Esprit Saint de la Pentecôte. Et c'est déjà pas mal. Jésus et Paul ne sont donc pas si opposés qu'on a pu le dire. Le premier n'est pas le fondateur du christianisme. Il est bien plutôt et demeure la figure centrale à laquelle chacun doit revenir pour fonder et éprouver sa propre foi. C'est plutôt comme ça que ça marche. Et c'est un statut bien préférable à celui de fondateur, il me semble. Les fondateurs, vous le savez, ont droit, dans un premier temps, à un buste en marbre ou en bronze, pour les moins gâtés, en stuc ou en plâtre, dans le hall du siège social de l'entreprise. Et puis un jour, on ne sait pas trop pourquoi, la référence à leur personne devient presque encombrante, gênante. On enlève le buste, on le pousse sur le côté, et puis on finit par le déménager au fond du jardin, abandonné aux intempéries et aux déjections des pigeons qui ne respectent personne. On commence en statut et on finit sans statut, avec un T. Je l'aime bien celle-là. Vous n'imaginez pas le temps qu'il m'a fallu pour la trouver, c'est beaucoup de travail, vous savez. C'est tellement mieux pour nous que Jésus soit une figure centrale, absente des lieux. Il n'est plus là, mais éternellement présente en parole. Il y a tellement de lieux où il a fini comme un bibelot que nous ne pourrons que remercier nos devanciers de l'avoir non pas chassé de nos temples, mais plutôt libéré de notre emprise en le rendant d'autant plus parlant qu'il est absent. Merci à eux. Paul, de son côté, n'a jamais revendiqué la place de figure centrale. Il a été plus modeste que cela, plus modeste qu'on l'a pensé longtemps. Il a au contraire renvoyé constamment à la personne et à l'enseignement du Christ et des disciples. Et surtout, malgré ce qu'il a écrit, et nous n'avons pas tout ce qu'il a écrit, il nous en manque, il a dû passer davantage de temps à prêcher, exhorter, encourager, reprendre, convaincre, organiser la solidarité à l'égard des plus faibles qu'à tenir une plume. Ses écrits restent sans doute, mais ils témoignent eux aussi de paroles et de gestes surabondants. Dans le texte de Jean 15 que nous avons relu, Jésus est seul avec ses disciples. C'est un moment de transmission de l'essentiel par la parole. Les dernières paroles échangées n'ont qu'un objectif, convaincre ses disciples, bientôt seuls, il faut s'en souvenir, qu'ils sont et seront indéfectiblement liés à lui, tous égaux entre eux, grâce à ce rattachement primordial. Conscients, persuadés qu'ils ne sont ce qu'ils sont que grâce à ce lien, il ne leur reste plus qu'à porter du fruit, c'est-à-dire reproduire à l'infini comme les saisons, en la déclinant de mille manières, la parole première et les gestes qui ont suivi. Mais Jésus dit aussi une autre chose à ces hommes qui se sentiront bientôt abandonnés et qui prendront la fuite. Vous n'êtes ni délaissés ni livrés à vous-même. Au contraire, vous êtes choisis et institués. Vous n'êtes pas éparpillés, faibles, en perdition. Vous êtes debout, bien stable, institués. C'est exactement l'inverse que ce qu'ils craignaient. Il leur faut pourtant passer cette phase de découragement. Nous qui formons Église aujourd'hui, tout spécialement au moment où nous reconnaissons un ministère particulier, celui du Conseil presbytéral, il faut souligner l'importance qu'ont pour nous ces paroles fondatrices qui viennent d'une figure centrale et pas d'un fondateur. Ce sont ces paroles qui sont fondatrices et qui le restent parce qu'elles ne seront jamais obsolètes. Nous n'exerçons un ministère que parce que nous nous savons appelés et choisis, institués, debout, stables, nous sommes tenus debout. Nos gestes d'accueil et de reconnaissance suivent cet appel et lui donnent une coloration particulière, locale, celle que nous saurons donner ici. Dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, nous trouvons une vision un peu différente, mais qui est finalement le prolongement de ce que Jésus promettait déjà à ses disciples. C'est la même chose, redite autrement, avec davantage de détails. L'unité du corps dont parle Paul est le rappel du rattachement premier à la figure centrale du Christ. Il y a un seul et même baptême et un seul et même esprit, Ce lien étant posé et reconnu, il ne reste plus qu'à porter du fruit en fonction de ce que chacun a reçu, et chacun a reçu quelque chose de différent. Cette source unique qui fait exister les communautés n'abolit pas les différences, d'après Paul. Elle les fait exister en complémentarité des dons reçus, des compétences, des charismes, des caractères, sans que jamais un membre de l'Église puisse dire à un autre « Je n'ai ou nous n'avons pas besoin de toi ». La magie de ce texte, c'est de redire ce que Jésus a dit à ses disciples d'une autre manière. Nous sommes tous liés à Christ et il n'y a pas d'autre lien à chercher. Alors, la communauté existe grâce à ce lien, devient autre chose et plus que la simple somme de ses parties. Une église, c'est plus qu'une association, c'est plus qu'un rassemblement, une entreprise ou tout autre collectif ordinaire, puisqu'elle est instituée par une parole vivante qu'aucune tombe n'a pu faire taire. Et ça, ça ne se trouve que chez nous. Notre mission est à la fois simple et démesurée. Nous avons jusqu'à la consommation des siècles pour faire que Dieu soit tout en tous. C'est immense, sans doute, mais ça permet aussi de faire un rétro-planning plutôt détendu. Paul achève ses recommandations aux Corinthiens en valorisant leurs différences, et ces critères sont encore valables aujourd'hui. Il le fait de trois manières. D'abord en affirmant que les membres d'une église sont à la fois égaux et spécifiques. Premier paradoxe. Chacun apporte ce qu'il a et le fait fructifier au profit de la parole qui nous lie. Égaux et spécifiques, les deux choses ne s'opposent pas. Au contraire, c'est plutôt ce qui permet à chaque membre de l'église d'avoir sa place. Ensuite, Paul avance un deuxième paradoxe. Nous sommes à la fois différents et unis par le même esprit, celui de la Pentecôte, qui adresse à chacun, chacune, une mission personnalisée. Et enfin, Paul nous fait découvrir que nous sommes aussi à la fois interdépendants et libres. Autre paradoxe, ce qui ne va pas toujours de soi d'ailleurs, c'est un équilibre à maintenir au jour le jour. Cette interdépendance dans la liberté apparaît d'ailleurs dans l'une des phrases que nous allons entendre tout à l'heure au moment de la reconnaissance du ministère du Conseil presbytéral. Il est question de soumission mutuelle. C'est une petite phrase qui passe inaperçue en début de paragraphe. Mais là encore, elle est très importante parce que c'est une originalité de nos églises d'avoir su rompre avec les formes habituelles de soumission ou de subordination que nous trouvons partout ailleurs et qui ont leur raison d'être, bien sûr. Être mutuellement soumis les uns aux autres signifie que la seule hiérarchie pour nous se fonde sur une parole reçue et pratiquée. C'est fraternellement, c'est-à-dire en enfant d'un même père, que nous devrons exercer notre ministère de conseiller presbytéraux. Amen.